en fait, j'étais très contente de l'invitation d'Andreas Meyer et surtout, bon, que je remercie même s'il n'est pas là, et surtout de m'avoir suggéré le sujet que je vais traiter, parce que c'est lui qui l'a choisi finalement. Je vais intervenir sur des questions d'ordre méthodologique, mais je vais essayer de le faire de la façon la moins ennuyeuse possible. Donc, comme Mme Carrois vous l'a dit, il y a quelque temps, j'ai étudié le phénomène de la glossolalie du point de vue linguistique. Il s'agit du don surnaturel de parler avec des expressions confuses qui ne rassemblent à aucune langue. Ce terme se prête actuellement à décrire des phénomènes très variés qui se produisent dans des différents domaines. Est considéré comme glossolalique une gamme de manifestations vocales qui, à vrai dire, on peut avoir avec l'authentique glossolalie, mais qui a été traditionnellement confondue avec elle. Donc, c'est un langage religieux et certains termes de ce qui font partie de ce qu'on appelle glossolalie ont été par la suite étudier et désigner, par exemple, la xénolalie, qui est le fait de parler une langue qu'on n'a jamais apprise sous le coup de l'inspiration. Donc, le mot glossolalie dérive du grec glossais lalein, qui signifie gloss, ça signifie langue, et laleo parler, dont lali bavardage, babile. Et il est originairement utilisé dans le contexte religieux. On le trouve tout d'abord dans le Nouveau Testament, surtout dans les Actes des Apôtres de Luc et dans la première épître aux Corinthiens de Paul. On emploie la tournure parlée en langue, qui est la traduction en langage courant du mot glossolalie, et les deux termes sont interchangeables. Mais un certain halo de mystère entoure le sens de la tournure grecque, si bien que l'ambiguïté foncière de cette tournure n'a pas favorisé, pour l'instant, l'identification du phénomène glossolalique ancien. Donc, on ne sait pas trop bien qu'est-ce qui s'est passé. Mais on peut émettre des hypothèses. Donc, les lecteurs qui se penchent sur la question puisent dans une variété de définitions celles qui leur conviennent mieux, mais ils ne s'inquiètent pas trop de la justesse de cette définition. Et pour constater la confusion qui entoure le mot glossolalie, il suffit de consulter quelques dictionnaires. Donc, la glossolalie a été étudiée dans le domaine linguistique, de la philosophie du langage, de la sémiotique, parfois sous l'angle de la transgression aux normes linguistiques et parfois sous l'angle de la créativité linguistique. Depuis la fin du XIXe siècle, la neuropsychiatrie s'est intéressée aux glossolalies psychopathologiques en tant que trouble de l'expression ordinaire chez certains malades. Donc, à ce moment-là, un bon nombre de vocables plus ou moins heureux ont été inventés pour définir les diverses anomalies de l'expression et de la communication verbale. En 1856, Martini emprunte pour la première fois le mot glossolalie au domaine religieux et l'insère dans le lexique psychiatrique et le définit en chant sans mots, un jeu anidéique de manifestations immédiates d'ordre affectif. Et il accomplit des études dans ce sens entre 1835 et 1842. Cette traversée de psychopathologie n'a pas laissé indemne les expressions religieuses inspirées, qui ont depuis été considérées comme des troubles expressifs quand ce n'est pas le sentiment religieux qui les a autorisés, qui n'a pas été jugé lui-même, comme un comportement déréglé. Donc, même si je fais allusion à ce lexique, j'ai plutôt analysé les glossolalies en les situant dans leur temps et dans la culture et dans la circonstance d'énonciation qui les autorise. Car si on regarde bien, même la pensée religieuse possède une rationalité spécifique qui n'a pas besoin de s'appuyer sur des disciplines scientifiques dures pour défendre ses positions. Donc, quand il était question des glossolalies religieuses, je les ai étudiées à l'appui des traités spirituels et d'œuvres exégétiques. Cela peut paraître un peu bizarre parce que c'est des textes qui ne sont pas trop les bienvenus dans le contexte universitaire, mais moi, ça me semblait que d'étudier les glossolalies sous cet angle, ça donnait un regard respectueux posé sur le phénomène. Donc, dans ce texte, la glossolalie apparaît comme un parmi d'autres effets du retentissement de l'union mystique sur les opérations rationnelles. Certains phénomènes relatifs à ce domaine, à vrai dire surprenants, sont trop facilement écartés comme relevant d'une pathologie si on les considère hors de leur contexte. Le fait que des troubles physiques ou psychiques puissent paraître concomitants de l'union mystique ne doit pas, à mon avis, aveugler quant à la caractéristique principale d'un événement que le sentiment religieux d'une époque bien précise a pu valider. Donc la vérification de l'authenticité d'un fait religieux, nécessite des paramètres fixés dans son domaine propre. La psychiatrie ne peut pas prétendre expliquer globalement certains états de conscience transitoires spécifiques au domaine de la piété, comme s'il s'agissait tout simplement d'une pathologie. Et pourtant, c'est bien cette tendance qui a pris le dessus dans les sciences humaines depuis les travaux du XIXe siècle sur les psychopathologies du langage. Donc, je vous propose de lire à ce sujet quelques passages tirés des textes d'un auteur qui s'est spécialisé dans l'étude des glossolalies il y a une centaine d'années et qui témoigne de cette orientation théorique. Il s'agit d'Émile Lombard, qui écrit entre 1907 et 1910 trois livres sur les glossolalies. Et nous, je vais lire quelques passages sur... tiré d'un article qui est paru dans la revue Archives de psychologie en 1908. Il faut savoir que Émile Lombard, il a soutenu une thèse de doctorat à la faculté de théologie sur les glossolalies, donc à la faculté de théologie. Donc, il publie une classification des glossolalies et qui est très très bien faite d'ailleurs, mais il la publie dans la revue Archives de psychologie sans éprouver aucune gêne à proposer un examen de glossolalie pour la plupart religieuse dans une publication qui s'occupe plutôt de troubles mentaux. Donc, il fait abondamment appel au jargon scientifique appliqué aux sciences humaines qui se constitue à son époque. Selon lui, l'effet du sentiment religieux sur la psyché de l'homme entraînerait un déchaînement affectif, des sentiments simples, je cite, des spontanéités juvéniles et vitales de l'être, des émotions profondes et vagues et une empreinte d'infantilisme. Les glossolalies des nouveau-nés de l'esprit, affirme-t-il en citant l'épître de Paul aux Corinthiens, dériveraient d'un état de somnambulisme total ou partiel qui se libère de tout sentiment de gêne et de convenance extérieure. Par ailleurs, Lombard trouve une comparaison adaptée à la description de la glossolalie comme un langage pré-rationnel dans la métaphore paulinienne du langage enfantin, progressivement remplacée au cours du temps par l'expression de la foi de l'homme mûr. Donc c'est un passage de l'épître de Paul aux Corinthiens qui affirme que la glossolalie est un langage temporaire, mais dans l'homme qui aura une foi adulte, utilisera des mots d'hommes adultes et pas des babilles d'enfants. Mais cette citation lui sert comme prétexte pour introduire un autre modèle. Je vous cite Lombard, « La glossolalie reste toujours dans une certaine dépendance à l'égard du langage ambiant. Cependant, elle offre bien un développement propre. Ce développement reproduit en gros, on doit l'admettre, celui du parler humain en général et commence de même par la phase infantile et quasi animale du langage affectif. La glossolalie évolue donc sur un terrain psychique préparé par un phénomène de régression. En effet, tous les cas de glossolalie gardent en quelque manière la marque de la mentalité enfantine dont ils dérivent par un processus plus ou moins compliqué. Et on peut étendre cette observation à tous les automatismes mystiques qui offrent avec la glossolalie quelques connexités. » Fin de la citation. Je remarque d'abord que ces renvois abrupts à la terminologie de la psychopathologie sont vraisemblablement justifiés par le désir qu'a Lombard de donner une allure scientifique à l'analyse qu'il est en train de mener. Pour comprendre mieux cette exigence, il est nécessaire d'évoquer le climat culturel de l'époque. Les principes de l'évolutionnisme viennent alors de bousculer quelques croyances traditionnelles et d'établir une discordance profonde entre le milieu religieux et le milieu scientifique. À ce sujet, je constate que l'allusion au paradigme de l'ontogenèse et de la phylogenèse, découverte récente à l'époque, qui affirme que la croissance psychophysique de l'individu suit les étapes de l'évolution des différentes espèces, intervient dans le discours de Lombard pour souligner de quel côté s'arrange son travail, sans cacher une certaine intention polémique. Il s'en sert pour affirmer que certains dynamismes observables dans les mouvements religieux de son temps, encore qu'étant de l'ordre de la psychopathologie, relèvent par-dessus le marché de la régression à l'état animal. Je cite encore, « Fréquemment, les sons inarticulés de la phase glossolalique inférieure prennent par leur discordance et leur intensité un caractère nettement hystérique. Il n'y a pas à s'étonner si l'hystérie est aussi une régression, un retour au règne désordonné des impulsions, mais d'impulsions maladives marquées de l'empreinte pénible de la souffrance et de la peur. On comprend que l'état essentiellement affectif d'où procède la glossolalie puisse se compliquer des manifestations hystériformes. » Fin de la citation. Le corpus exploré par Lombard ne porte pas sur les témoignages du parler inspiré par des religieux mystiques. Il est constitué par l'examen de glossolalie pratiquée par des associations religieuses ou pseudo-religieuses, vraisemblablement composée pour la plupart de personnes provenant de milieux culturels défavorisés de son époque. Dans ce contexte, le recours à l'expression affective, assume un rôle différent de celui qu'il possède chez le mystique. Ce dernier, quand il n'est pas affecté par l'expérience surnaturelle, il est capable d'argumenter et d'interpréter son vécu et de l'insérer dans un parcours personnel cohérent. Il connaît cette expérience plutôt dans le secret, ou bien il ne cherche pas à la rendre publique, et si cela advient, c'est vraisemblablement malgré lui. Les glossolalies étudiées par Lombard relèvent plutôt de l'expression glossolalique communautaire et publique, semblable à celle présentée dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Des formes d'exhibitionnisme y sont sûrement présentes et il y a probablement aussi un aspect de conditionnement psychologique qui pousse plus ou moins consciemment certains fidèles à s'efforcer pour produire ce qu'on attend d'eux, surtout s'il s'agit d'une performance expressive extraordinaire. Sans compter que pour exprimer l'appartenance au groupe, Quelqu'un peut aussi se contraindre à reproduire cette faculté d'expression en dehors d'une réelle pratique religieuse personnelle. Pour le fidèle qui n'a pas d'autre occasion d'extérioriser sa personnalité, le fait de parler en public de façon singulière peut être une manière de s'affirmer dans un groupe. Cela demeurerait un épisode dont l'effet n'est appréciable qu'au niveau de l'autosatisfaction produite par l'impact de la performance d'un individu sur l'auditoire. Toute cette série de conséquences psychologiques et sociologiques implicites dans les exemples cités par Lombard transparaît de ces aperçus du sentiment religieux empreint de l'atmosphère du 19e siècle. Cet état des choses ressemble beaucoup aux faiblesses des Corinthiens stigmatisés par Paul. Le travail de classification de Grossolali d'Émile Lombard, encore que très efficace du point de vue de l'organisation du corpus, me semble très marqué par son point de vue idéologique. Donc certaines de ses positions théoriques ne me paraissent plus valides pour notre temps, car viciées par des perspectives, enfin, et même des préjugés envers l'objet d'étude, des perspectives typiques de son époque, de la pensée des sciences humaines qui se forment à son époque. Donc Lombard, il a attendu montrer que l'expression confuse constitue une régression, sinon une pathologie, par rapport à la spéculation rationnelle accomplie par le savant. Presque à la même époque, Victor Henry, qui était professeur à l'École de France, au Collège de France, en se penchant sur l'expression inventée au cours des transes médiumniques de Helen Smith, dévoile lui aussi son souci de souligner la marque régressive de sa glossopoïèse, la comparant avec le langage enfantin. Je cite Victor Henry. Toutes les langues primitives et tous les jargons enfantins usent largement de la littération et de l'assonance, survivance des temps lointains où la parole et le chant ne faisaient qu'un. Satisfaction vague d'un instinct esthétique qui est la marque d'outils imprimés par l'homme à toutes ses productions. Moyen mnémonique aussi efficace qu'aisé, tout concourt à faire de la répétition des sons initiaux et finaux la base de la mélopée accompagnatrice du langage humain. À plus forte raison, s'il s'agit d'un subconscient qui volontiers rimaille, ne fût-ce qu'un des vers de Mirliton, et à qui arrive même de parler en prose rythmée, sans s'en apercevoir qu'après coup. Fin de la citation. D'accord, mais j'y arrive. Dans cette analyse, il fait allusion à une double régression. La première est l'expression élémentaire et mimétique du stade enfantin. La seconde, celle des origines, mirage des traités sur l'origine des langues, qui suppose, sans preuve vérifiable, qu'à l'origine, l'homme s'exprimait d'une façon plutôt que d'une autre. Donc voilà, c'est une perspective qui me semble marquée par un modèle typique de ce temps-là. Face à cet état des choses, j'ai essayé de traiter les glossolalies dans la plus grande transparence possible et j'ai essayé de développer parallèlement deux options. Une prise de position par rapport à des solutions méthodologiques qui me semble peut-être un peu dépassé. Et j'ai essayé de mettre en valeur des perspectives d'études précédentes, des glossolalies, qui me semblent avoir encore du sens aujourd'hui. Et suivant cette décision, je suis allée voir dans des traités spirituels s'il y avait quelques moyens d'interpréter autrement ces phénomènes. Par exemple, Si on lit Lombard, il fixe un premier degré de élocution inspirée dans les phonations non articulées. Je suis allée chercher dans la Bible et je vois que il y a un degré zéro qui est celui, par exemple, de ce que j'ai appelé du mutisme mystique. Donc, une impossibilité transitoire de s'exprimer et qui accompagne ou suit la manifestation divine. Donc, c'est des périodes de mutisme et d'immobilité qui marquent les extases de certains prophètes, comme par exemple Ézéchiel ou Moïse ou encore Zacharie dans l'évangile de Luc. Or, dans un traité spirituel dont le titre c'est La nuit obscure, Saint Jean de la Croix, un religieux carme qui vit entre 1542 et 1591 et qui a obtenu l'honneur d'être nommé docteur de l'Église en raison de ses traités sur la vie spirituelle, il y a une interprétation de ce phénomène du mutisme mystique et il essaye d'en donner des explications. Je cite Jean de la Croix. Tel est le propre du langage de Dieu. Quoique très intime à l'âme et spirituelle, il dépasse les sens. Il arrête l'habileté et réduit au silence toute l'harmonie et toute l'habileté des sens extérieurs et intérieurs. Nous en avons des preuves et des exemples dans les Saintes Écritures. Jérémie nous montre l'impuissance de les manifester et d'en parler extérieurement. Quand, après avoir entendu Dieu, il ne sait que lui répondre A. L'impuissance intérieure, c'est-à-dire celle du sens intérieur de l'imagination en même temps que l'impuissance extérieure ou du langage, nous est manifestée également par Moïse lorsqu'il se trouvait en présence du buisson ardent. Non seulement il dit à Dieu qu'il venait de s'entretenir avec lui, qu'il ne savait plus parler et qu'il n'y parvenait pas. Mais, comme le remarquent les Actes des apôtres, il n'osait même plus le regarder intérieurement, à l'aide de son imagination. Il lui semblait que son imagination en était très éloignée et incapable non seulement de se représenter quelque chose de ce qu'il comprenait de Dieu, mais encore d'en recevoir quelques connaissances. Aussi, quoique la sagesse de cette contemplation soit le langage de Dieu à l'âme ou de pur esprit à esprit pur, tout ce qui est inférieur à l'esprit, comme le sont les sens, ne peuvent le percevoir. Il reste un secret pour eux. Les sens ne le connaissent point et ne peuvent l'exprimer. Et ils n'en ont aucun désir parce qu'ils ne le voient pas. Donc voilà comment cet observateur de l'expérience spirituelle interprète cette éclipse momentanée des facultés expressives de l'inspiré, qui est due à la prépondérance de l'expression divine qui, dans cette circonstance, communique avec l'esprit de l'homme. Mais l'inspiré ne peut pas saisir cette communication à travers ses sens et par la raison, mais la recevoir seulement spirituellement. Néanmoins, l'ensemble de ses facultés est mobilisé par l'accomplissement de cette opération divine. Donc, je glisse sur certaines choses pour arriver à la fin, puisque le temps est fini. Donc, il y a des façons d'approcher on va dire, des sujets un peu délicats qui se retrouvent dans le temps, parce que, par exemple, une étude qui a été, enfin, une étude, des travaux qui ont été faits par les pères de l'Église par rapport à la glossolalie montaniste, c'est-à-dire un phénomène d'exaltation spirituelle qui s'est produit au IIe siècle, condamné comme possession diabolique ce que Lombard réprouve comme pathologie. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on peut faire abstraction à notre époque d'une observation d'ordre psychiatrique du corpus des glossolalies religieuses? Je pense que oui. Je suis encouragée dans cette option par l'argumentation de Claude Lévi-Strauss qui se posait la même question de savoir si la transe est un phénomène normal ou pathologique. Donc là, j'avais une citation très intéressante de Lévi-Strauss que je ne vais pas vous lire parce que je n'ai pas le temps, mais qui dit en fait non, la transe peut être aussi un phénomène transitoire que quelqu'un qui a une bonne santé psychophysique peut connaître. Et donc il argumente. Donc moi je m'appuie aussi sur ces argumentations et je me dis que si la transe a pu être étudiée en faisant abstraction du domaine des pathologies, il se peut que même les glossolalies peuvent l'être. Même si parfois vous avez aussi des glossolales qui sont dans un état pathologique. Je termine. Alors, donc, vous pourriez me dire, mais vous avez traité d'un auteur d'il y a un siècle. Eh bien non, parce qu'en 2011, sort un livre qui présente les mêmes orientations des textes de Lombard en italien, L'ala delirante e i convulsionari di Saint-Médard, un caso di psicopatologia di massa nel secolo dei lumi. Je traduis L'aile délirante, les convulsions de Saint-Médard, un cas de psychopathologie de masse dans les siècles des Lumières. Donc, c'est un auteur italien qui invite dès le sous-titre à reconnaître dans les phénomènes de convulsion de Saint-Médard qui se sont produits au XVIIIe siècle à Paris l'expression d'une psychopathologie. Voilà, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que j'en pense, j'ai écrit une fiche de lecture publiée dans Politica Hermetica numéro 28 en 2014. Et si vous voulez en savoir plus sur le reste, il y a mon bouquin sur les glossolalies. Et pour le reste, je vous remercie de votre attention et je me soumets à vos questions.
Merci. Moi, j'avais une petite question concernant Lombard et les archives de psychologie. Car les archives de psychologie, c'est une revue genevoise calviniste. Et Lombard a fait des études de théologie. Donc je me demande s'il ne faudrait pas se demander si là il n'y a pas une différence entre le point de vue de Lombard c'est une revue quand même de Genève, hein, les archives de psychologie, et donc par exemple quelqu'un